Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Demain mercredi sort le film d'Ava DuVernay, Selma, commémorant le 50e anniversaire des marches de Selma à Montgomery en mars 1965 en faveur de la lutte pour les droits civiques. Franck Ferrand nous fait revivre ces événements. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Le héros du film et le grand homme des marches de Selma, sans aucun doute, c'est Martin Luther King, comme nous l'appelons nous. Pour évoquer ces combats, je dis comme nous l'appelons nous, parce que vous savez que pour un anglo-saxon, quand on dit Martin Luther King, ça ne veut même pas de qui on parle. Pour évoquer ces combats non violents, j'ai convié à nous rejoindre Thomas Negaroff, qui connaît si bien les États-Unis et la société américaine.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Franck sur la page Facebook de l'émission.
Franck voudrait connaître l'origine de l'expression « mettre sa main au feu ». Eh bien, pour ma part, je mettrai ma main au feu que ces événements, quoique vieux d'un demi-siècle maintenant, sont pleins de résonance pour nous en 2015.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Des hommes et des femmes qui se réunissent sous le coup de l'émotion et qui se mettent à marcher pour faire respecter leurs droits, évidemment, ça fait écho à des événements récents et qui nous parlent. C'est, en tout cas, ce qui s'est passé entre Selma et Montgomery dans l'Alabama en 1965, en mars 1965, il y a donc 50 ans. Avec évidemment une grosse différence dans la motivation et surtout dans le substrat de la population qui vient là et qui défile. Il y a des Noirs et des Blancs à Selma, incontestablement, mais le socle commun, c'est la religion. Et on viendra justement sur cette dimension religieuse qui a mis le mouvement en marche, en branle. Selma, c'est avant tout la lutte pour l'application du droit de vote. Or, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce droit de vote aux États-Unis, il existait depuis 1870. C'était le 15e amendement de la Constitution qui donnait à tous les citoyens américains, quelle que soit leur origine, y compris même pour ceux qui étaient des descendants d'esclaves, voire même d'anciens esclaves affranchis, tous avaient le même droit de vote. Simplement, ça c'était sur le papier. Dans la pratique, dans les faits, il en allait bien différemment. Notamment, vous aviez dans les différentes instances et dans les bureaux de vote, des greffiers qui faisaient obstruction à l'inscription sur les registres. Dès que vous étiez une personne de couleur, comme on disait, eh bien, vous aviez droit à un petit questionnaire. On vous posait toutes sortes de questions. Alors, l'examinateur improvisait, parce que rien de tout ça n'était légal, au passage, vous demandait de réciter un passage de la Constitution ou de donner les noms des juges de la Cour suprême. Alors évidemment, ça devient nettement plus compliqué. Bref, on enchaînait comme cela les questions et les obstacles jusqu'à ce que la personne échoue. Sans compter, par ailleurs, ce système un peu censitaire du suffrage universel aux États-Unis avec les poll tax qui, évidemment, avaient pour effet de décourager les plus pauvres. En 1965, en Alabama, des comtés entiers refusent encore le droit de vote aux Noirs. En tout cas, le refusent dans les faits. Sur 15 000 Afro-Américains qui vivent dans cette ville donc de Selma, seuls 150, vous imaginez, sur 15 150 sont inscrits sur les listes électorales. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait un petit pourcentage. Bien sûr, cette situation ne pouvait pas passer inaperçue. Des voix commencent à s'élever. Et c'est en 1963 que naît le Student Nonviolent Coordinating Committee. C'est le SNCC qu'on appelle, on l'a résumé en acronyme, le SNCC. Un SNCC en anglais, c'est une petite entaille. Ces gens s'opposent au shérif de la ville de Selma, Jim Clark, et d'une façon plus générale, aux autorités, à commencer par le gouverneur Wallace de l'Alabama. Il faut vous dire que Clark et Wallace sont deux ségrégationnistes notoires et qui, du reste, ne s'en cachent pas. On a vu Clark faire arrêter et tabasser des militants par la police. Celui qui vient assez vite à la rescousse de ce SNCC, il est alerté, il se rend sur place avec la SCLC, c'est-à-dire l'association de pasteurs qui lutte contre la ségrégation dans le Sud, c'est Martin Luther King, évidemment. Ces gens sont à l'origine d'un certain nombre de boycotts, de sit-in et donc de marches. Leur but est de manifester, de façon certes non violente, mais de manifester très clairement leur opposition à un système qu'ils jugent pour le moins dépassé et d'une injustice extraordinaire, sans parler du caractère illégal, bien entendu, de tous ces comportements. Le président de la fameuse Southern Christian Leadership Conference, là, le président de cette association de pasteurs, c'est Martin Luther King depuis 1957. Quand il arrive à Selma, il est déjà lui-même une célébrité. Il a mené avec succès de nombreux combats, à tel point qu'il vient de recevoir le prix Nobel de la paix. C'est donc une célébrité mondiale. Le Time Magazine, à son propos, parle d'un Gandhi américain, ce qui ne doit pas lui déplaire lorsqu'on sait que le modèle principal de King, et nous en reparlerons tout à l'heure bien entendu, celui qui le guide dans son action et qui en quelque sorte l'inspire au quotidien, c'est précisément le Mahatma Gandhi. La présence de Martin Luther King à Selma va faire monter un peu la tension dans les deux camps. Évidemment, ça donne des ailes à ceux qui se battent pour les droits civiques, mais en face, ça a tendance à crisper un peu plus les ségrégationnistes. Même le président des États-Unis observe la situation de très près. On est là au tout début de la présidence de Lyndon Johnson. Vous savez qu'on vient d'assassiner le président Kennedy et c'est le vice-président Johnson qui est entré à la Maison-Blanche, qui est devenu le président des États-Unis. On sait partout, et à Washington mieux qu'ailleurs, que Selma est une bombe à retardement et que des événements graves pourraient survenir. Et c'est d'ailleurs ce qui va finir par arriver. Le 18 février, un manifestant est tué par la police. On monte en réaction une marche pacifique qui va relier donc Selma à Montgomery. Je ne sais pas exactement, il doit y avoir entre 70 et 80 kilomètres entre les deux villes. Hein. C'est donc très important. Montgomery étant la capitale de cet état, l'Alabama. Arrivé là-bas, le but est d'obtenir du gouverneur, de ce fameux Wallace, l'application pure et simple de la loi de 1870, en tout cas du 15e amendement, et puis surtout de la toute nouvelle loi de 1964, l'acte des droits civils, vous savez, le Civil Rights Act, dont le but était de mettre fin à la ségrégation. Le 7 mars 1965, 600 manifestants se mettent en marche. King n'est pas là ce jour-là. Il est prévu qu'il rejoigne le cortège le lendemain. Quand les manifestants, ils sont très nombreux, arrivent au pont Edmund Pettis qui marque la sortie de la ville, le cortège aperçoit une horde de policiers de l'autre côté. La police ordonne de faire demi-tour. Le cortège est pacifique, vous l'avez bien compris, mais il est déterminé et les gens n'ont pas l'intention de s'arrêter. Donc on continue, peu à peu, on va dire que les deux camps se rapprochent, c'est le face-à-face, la police sort les matraques, les gaz lacrymogènes, et là c'est la violence, une violence qu'on voit dans le film évidemment, qui va faire 60 blessés, évidemment que les manifestants sont obligés de rebrousser chemin, mais alors vraiment à contre-cœur. Et là, on peut dire que le pays est choqué. Par référence à la révolution russe de 1905, on parle d'un Bloody Sunday, d'un dimanche sanglant. Alors, il a été peut-être un peu moins sanglant que sur la place Alexandre de Saint-Pétersbourg. Mais effectivement, on peut dire que la violence a franchi un degré et que maintenant, ça va être l'épreuve de force.
Thank you.
John Legend, un titre qui fait partie de la bande originale du film Selma. Pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les marches de Selma à Montgomery.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand aux marches de protestation de Selma.
Alors, le grand personnage, évidemment, celui qui a donné à ces marches, j'ai dit ces marches parce qu'il y en a trois, on va y revenir tout à l'heure, on va rentrer dans le détail de tout ça, celui qui leur a donné leur lustre et qui les a fait connaître, c'est bien entendu Martin Luther King. Qui est-il ? Il faut peut-être que nous revenions un peu sur cette figure extraordinaire. J'ai eu l'occasion de lui consacrer déjà un certain nombre d'émissions dans le cadre de nos rendez-vous, mais... rappelons peut-être que Martin Luther King a étudié au Morehouse College d'Atlanta, qui est une université réservée aux garçons noirs. Il a été diplômé en 1948 à l'âge de 19 ans. Il avait une licence de lettres, hein, c'était un littéraire, si je puis dire, et ça va surtout être un excellent connaisseur de la religion. On va y venir tout à l'heure. Il est d'emblée très actif au sein de la National Association for the Advancement of Colored People, la fameuse NEACP, qui est très active dans cette période de l'immédiate après-guerre, à une époque, ne l'oublions pas, où encore une fois, la ségrégation s'exprime avec violence, avec des espaces séparés dans les lieux publics, dans les transports en commun, avec la présence dans un certain nombre d'États du Sud du célèbre Ku Klux Klan, vous savez, qui, bien qu'illégal, fait régner un peu partout la terreur. Il faut vous dire que déjà le grand-père maternel de Martin, avait été membre de cette association et qui l'avait sensibilisé à ce combat. Au départ, on peut dire d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, que Martin Luther King a été assez réticent à s'engager à suivre les pas de son père, qui était lui-même pasteur baptiste. Il ne savait pas s'il devait y aller. On était dans la famille très, très fervent, très religieux, inconditionnel de l'écriture sainte. La connaissance que pouvait avoir Martin de la Bible était tout à fait extraordinaire. Après tout, il s'appelle, qu'on le veuille ou non, Martin Luther, comme un autre. Tout ça était évidemment, tout ça fait partie de sa formation, tout ça fait partie de son univers mental. Il intègre le séminaire de Chester en Pennsylvanie pour une licence de théologie justement, et en 1953, il épouse une chanteuse de gospel, Coretta Scott, qui ne va faire qu'à vivre encore un peu sa foi. Il obtient un doctorat en théologie en 1955 à l'université de Boston. Il faut savoir qu'il suit parallèlement des cours de philo à Harvard. Là, on est en 55. Ça y est, on peut déjà dire qu'en 1955, Martin Luther King est dans le combat. Le couple s'est installé à Montgomery en 1954, donc Montgomery en Alabama, où Martin Luther King est nommé pasteur. Et c'est dans ce qui est en quelque sorte le creuset de la lutte pour les droits civiques, c'est là que va commencer le combat de Martin. Il y a 50 000 noirs et 80 000 blancs dans la ville. Pour l'époque aux États-Unis, on pourrait presque parler d'égalité. En tout cas, c'est une ville où la communauté noire est extrêmement développée. Le 1er décembre 1955, ça c'est une date que connaissent bien les jeunes citoyens américains parce que ça fait partie de ce qu'on apprend au lycée aujourd'hui. C'était un jeudi. Rosa Parks va, vous savez, avoir cette fameuse altercation dans un bus. C'est une couturière afro-américaine de 50 ans et elle refuse dans un bus de laisser sa place à un blanc. Il faut vous dire que là encore, il y avait, donc je vous dis, des espaces réservés pour les blancs, réservés pour les noirs, et le monsieur blanc, en l'occurrence, a estimé qu'il pouvait venir s'asseoir dans la partie réservée aux noirs sous prétexte qu'il n'y avait plus de place devant. Donc, elle refuse. Ça va être, vous savez, c'est le début d'une extraordinaire affaire aux États-Unis. Ça va être aussi la prise de conscience en dehors des États-Unis de cette ségrégation très active. On avait tendance à vouloir l'oublier d'une certaine manière, et notamment en Europe, à travers le cinéma américain, etc. On avait une image un peu idéalisée des États-Unis, et souvent les gens qui s'y rendaient, qui allaient sur place et qui se promenaient aux États-Unis revenaient sidérés, notamment ceux qui allaient dans les États du Sud, revenaient sidérés par cette... par cette ségrégation. Donc Rosa Parks est arrêtée, elle sera libérée sous caution, traduite en justice. Martin Luther King est averti, il organise le soir même une réunion au temple. Il y a là non seulement des pasteurs comme lui, mais des avocats, des médecins, des syndicalistes. Le dimanche suivant, le problème est abordé un peu partout, on va dire dans tous les sermons. Les fidèles sont invités à boycotter les transports en commun de la ville de Montgomery. On distribue des tracts à tous les gens de couleur pour qu'ils suivent le mouvement. Évidemment, tout ça est encore très incertain. On ne sait pas du tout quel tour les événements vont prendre. Et le boycott commence donc le 5 décembre, 4 jours après l'altercation, le 5 décembre 1955. Ça va être un énorme succès. Les bus sont littéralement vidés. Ils sont d'ailleurs désertés aussi bien par les blancs que par les noirs, parce que les blancs ont peur des troubles. On s'organise avec des taxis, des vélos, du covoiturage. Certains vont faire plusieurs dizaines de kilomètres à pied pour aller travailler. Et ce qui est frappant d'emblée dans ce combat pour les droits civiques, c'est qu'ils sont empreints d'une forme de pacifisme, ou en tout cas, sinon de pacifisme, en tout cas de non-violence. Ce qui n'était pas du tout évident dans une Amérique où un certain nombre de mouvements noirs, au contraire, appelaient, bien sûr, à la violence. Et créé le même jour la Montgomery Improvement Association, qui est une association pour le progrès, sous-entendu pour le progrès social et le progrès des droits à Montgomery. Le président qui est élu immédiatement, c'est King, bien entendu. Il est non seulement le président de cette nouvelle association, une de plus, mais il devient surtout le porte-parole de tout le mouvement pour les droits civiques. Quand on parle de droits civiques, c'est pour la population afro-américaine, bien entendu. C'est pour les Noirs, vous vous doutez bien que c'est très ciblé. Je vous parlais de Gandhi tout à l'heure. Je crois que c'est là que Martin Luther King s'inspire directement de ce qu'a pu faire Gandhi 20 ans plus tôt en Inde, et qu'il va mener des actions sur le long terme. Là, en l'occurrence, cette histoire avec les transports en commun à Montgomery, ça va durer 382 jours. Et la compagnie de bus qui est au bord de la faillite est obligée d'abandonner ces fameuses mesures discriminatoires. Elle n'a pas le choix. Et d'ailleurs, en parallèle, la Cour suprême des États-Unis déclare la loi autorisant la ségrégation dans les transports inconstitutionnelle, ce qui n'est d'ailleurs que l'application pure et simple de la loi de 1870. C'est une première victoire, ça, pour les Noirs. Il faut imaginer que c'était vraiment un combat un combat de haute lutte, et il a fallu vraiment y croire. Comment arriver à faire plier une autorité lorsque vous êtes uniquement dépositaire de vous-même, si je puis dire, et que vous n'avez aucun autre moyen de pression que votre présence et votre action? Ça c'est le début pour Martin Luther King de ce qui va être une véritable vocation. Alors attention, pendant toute cette période de boycott, Martin Luther King, à titre personnel, est devenu une véritable cible, y compris d'ailleurs pour les autorités officielles. On va l'arrêter sous prétexte d'un excès de vitesse. Il y a même un attentat à son domicile. Il faut, pour Martin Luther King, à la fois supporter l'agression du camp d'en face et aussi retenir ses propres troupes, parce qu'il tient beaucoup à cette dimension non violente. Et c'est très difficile d'empêcher les gens autour de lui de se rebeller et de riposter. Finalement, il est quand même condamné dans cette affaire à 140 jours de prison, $500 d'amende pour violation des lois anti-boycott. Là, on peut dire que l'élève rejoint le maître, et ça fait vraiment penser à ce qui arrivait à Gandhi à l'époque où lui-même lançait les mouvements pour l'indépendance en Inde. Donc, en janvier 57, les leaders noirs d'une dizaine d'États du Sud se réunissent. Ils vont s'organiser. Ce sera la création de la SCLC dont je vous parlais tout à l'heure. On est en train d'assister à la naissance d'un véritable mouvement national.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Martin Luther King et aux conséquences des marches de Selma à Montgomery.
Il y a toujours quelque chose d'impressionnant dans ces mouvements de foule, des foules qui sont calmes, qui sont résolues et qui arrivent à faire évoluer la situation et à faire plier l'adversité uniquement, encore une fois, par la force du nombre, d'une certaine manière. C'est beau quand vous avez des gens comme ça qui s'agrègent et qui font nombre, et vous voyez la dynamique se mettre en œuvre, et vous voyez la conscience également. C'est un mouvement qui cristallise peu à peu. Alors il y a eu de grandes étapes, j'ai eu l'occasion de raconter ça déjà, mais ça a été d'abord Greensboro, là on est en Caroline du Nord en 1960. Ce sont des étudiants, vous savez, qui avaient voulu s'installer dans une cafétéria réservée aux Blancs. Ils ont refusé de vider les lieux et allons-y, c'est toujours un peu la même histoire. C'est Rosa Parks qui recommence en quelque sorte, sauf que cette fois la radio, une radio associative, on est aux États-Unis, n'oublions pas, s'en est mêlée immédiatement. Le mouvement s'est très vite étendu à une centaine de villes et on a vu près de 60, même plus de 70 000 protestataires prendre fait et cause pour les étudiants. Martin Luther King a déclaré « Pour que la résistance non violente ait un sens, hein, c'était toujours son obsession, il faut que cela soit dirigé vers la réconciliation, notre but final est la création d'une communauté d'amour fraternel. » Je vous parlais de religion tout à l'heure et d'un esprit religieux qui sous-tendait l'ensemble de ce mouvement. Et là, on peut dire qu'elle est là, la religion. Et cette idée d'un amour, cette idée, il n'y a pas chez Martin Luther King la volonté d'aller vers un affrontement final, mais au contraire, par la résistance, l'idée d'aller vers une réconciliation. Je pense que c'est là-bas, c'est ce qui l'anime. Alors ça, c'est en tout cas dans la théorie. Nous verrons tout à l'heure dans la pratique ce qu'il en a été concrètement. Mais c'est vraiment ce qui l'anime. Vous savez, le caractère non violent est au cœur de sa démarche. C'est ce qu'il va faire également en 1963 à Birmingham en lançant le projet C. C comme confrontation. Là encore, on adapte la stratégie de Gandhi. On provoque, sans violence, bien entendu, un certain nombre d'extrémistes. Et on le fait devant les caméras, devant les appareils photos de la presse. On essaie de prendre à témoin le plus grand nombre de ce qui est en train de se passer. Et l'on voit ce mouvement qui prend corps. Et l'on voit ces gens qui vont aboutir au respect de la loi, encore une fois, par la simple force de leur volonté. C'est tout à fait extraordinaire. C'est le président Kennedy qui est obligé de faire une déclaration à la télévision. Il est très grave. Il va présenter, dit-il, au Congrès, un projet de loi sur les droits civiques. Ça commence à remuer dans le pays entier. Le 28 août 1963, pour appuyer cette démarche, c'est la célèbre marche sur Washington. Alors ça, vous connaissez par cœur, bien entendu, puisque c'est là que le pasteur King va avoir sa fameuse déclaration « I had a dream, j'ai fait un rêve ». Bon, on a tous entendu ce discours un certain nombre de fois. Tout à l'heure, ce que je vous proposerai d'entendre, c'est un autre discours de Martin Luther King en français, celui-là. Alors, inutile de vous dire qu'en face, il y a des détracteurs, il y a Hoover, le chef du FBI, il y a un certain nombre d'hommes politiques majeurs. À l'opposé, il y a tous les partisans noirs de la violence, je pense à Malcolm X, etc. Martin Luther King est pris en tenaille entre tout ça. Donc vous voyez que quand arrivent les événements de mars 1965 à Selma, le moins qu'on puisse dire, c'est que la marge de manœuvre de King est particulièrement étroite.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Martin Luther King, avec votre invité Thomas Negarov, professeur à Sciences Po, spécialiste des États-Unis, auteur entre autres de Bill et Hillary Clinton, Le mariage de l'amour et du pouvoir aux éditions Talendier.
Il y avait eu, Thomas... Bonjour Thomas Negarov d'abord.
Bonjour Franck Ferrand.
Il y avait eu une prise de conscience avec cette grande marche de Washington. Mais ce qui se passe en mars 1965 va donner au mouvement de Martin Luther King une dimension quasiment planétaire, on peut dire. La presse du monde entier s'y intéresse.
Alors vous avez précisé tout à l'heure, à juste titre, qu'il est déjà très connu.
Déjà prix Nobel.
Puisqu'il a le prix Nobel, son discours « I have a dream » est quand même considérablement repris dans la presse internationale. Il n'est largement pas méconnu, mais c'est vrai que Selma et les images de la violence vont déclencher un courant de sympathie alors dans le monde, mais surtout en fait, Martin Luther King ne parle pas au monde, il parle surtout aux blancs américains du nord des États-Unis et du nord-est en particulier, et pas seulement des gens de la Maison-Blanche, mais des américains moyens qui s'imaginent pas forcément ce que peut être la violence à l'égard des populations noires. Et c'est ça qu'il veut faire à Selma.
On utilise déjà beaucoup l'avion en 1965 aux États-Unis, mais quand même, les transports sont moins répandus qu'aujourd'hui. Il y a encore des différences très très fortes d'un État à l'autre. Et c'est vrai que l'idée peut-être de Luther King, c'est de reprendre la vieille idée de Lincoln, s'appuyer sur la classe moyenne du Nord pour faire plier la classe rurale du Sud. En gros, c'est ça.
Oui, et son coup de génie, ça va être, vous avez raison, il y a trois marches. Après la première, qui est en fait une marche noire, essentiellement noire, qui se passe très mal. Mais alors là, la médiatisation est encore assez faible, pas suffisante en tout cas. Et après le choc de la première marche du 7 mars, Martin Luther King va décider d'en appeler à tous les religieux du pays, et y compris les blancs. Parce qu'il a une idée fixe, c'est effectivement, il a plusieurs idées fixes, hein, c'est la non-violence, c'est de prendre à témoin, et c'est aussi absolument de ne pas faire passer son mouvement comme étant un mouvement, et c'est très très particulier de le dire aujourd'hui, communautaire. Parce que, bien sûr, il y a une tentation d'y voir quelque chose de communautaire, un mouvement noir pour les noirs. Non.
Lui, vous avez vu que je me suis laissé aller employer le mot tout à l'heure et j'ai eu une hésitation parce que ce n'est pas ce que je voulais dire, justement.
Ouais. C'est oui, voilà, parce que c'est un piège d'aujourd'hui, anachronique. Et précisément, c'est le piège dans lequel il ne veut pas tomber. Il ne faut pas jamais oublier une chose, c'est la force des préjugés des blancs de l'époque par rapport aux noirs. À l'époque et encore aujourd'hui, les principaux préjugés, c'est en gros le noir est dangereux. Il est violent physiquement et il viendra nous demander des comptes pour l'esclavage. Et il sait bien que Martin Luther King sait bien que jamais il ne parviendra à convaincre les blancs du bien fondé de son action, qui est légalement et légitimement et moralement même tout à fait fondée. Il n'y parviendra pas s'il ne parvient pas non plus à revenir sur ce préjugé très fort. Donc il ne faut pas être violent. Absolument pas être violent. Et dans le film Selma qui sort demain, on voit bien ça de Martin Luther King, enfin l'acteur qui le joue, mais Martin Luther King qui explique à des jeunes surtout ne pas faire le coup de poing. On est moins nombreux et surtout, si on fait le coup de poing, on va tomber dans les préjugés raciaux traditionnels et on va perdre les blancs du Nord qui sont là pour nous soutenir et qui peuvent nous soutenir.
L'acteur qui joue le pasteur King, c'est David Oyelowo. Vous le trouvez convaincant dans le rôle?
Ah oui, oui. Ah ouais, il est assez exceptionnel, surtout dans les prêches. C'est là où on voit la puissance du verbe.
Il a dû l'écouter en boucle.
Oui, il y a l'accent du Sud, il a utilisé cet accent. On voit effectivement à quel point Martin Luther King, par ses mots, par le verbe, effectivement, a pu soulever des foules et agréger autour de lui des gens d'horizons extrêmement différents, socialement et même culturellement, puisque je vous disais qu'il y avait aussi des blancs qui étaient venus, et c'est précisément notamment la mort d'un pasteur blanc du Nord qui va, après en marge de la deuxième marche, qui va aussi choquer. On va se dire, mais c'est quoi cette violence aveugle de la part de la police blanche.
On va revenir sur l'enchaînement des circonstances et sur ces trois marches, mais Florence nous demande déjà via Twitter si, d'une façon générale, le film vous a paru conforme à la réalité des faits.
Oui, alors c'est un film qui est un film plutôt militant et par conséquent qui...
Violent, il faut le dire.
Oui, qui est très violent.
Et fondé sur l'émotion.
Hein, voilà, c'est un film, effectivement, qui vise à toucher au cœur plutôt qu'à l'esprit, même si c'est un film plutôt intelligent. Mais on est du côté noir exclusivement. C'est un parti pris de la part de la réalisatrice que d'avoir porté l'action. On est vraiment en caméra embarquée quasiment avec Martin Luther King. On sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il veut. En revanche, les motivations des blancs sont dépeintes de manière un petit peu caricaturale. C'est, voilà, d'abord, il y a plein de blancs qui ne sont même pas humanisés. Hein, les troopers sont on les voit à peine, on voit même pas leur visage, un peu comme dans La Guerre des Étoiles. Et à l'inverse, les Noirs sont, voilà, on raconte leur histoire, on les voit chez eux, il y a toute une histoire personnelle. On est en empathie avec les Noirs, tandis que les Blancs n'existent pas, sauf pour être d'immondes racistes, comme peut l'être Clark, comme peut l'être aussi évidemment le gouverneur Wallace.
Oui. Et ça, c'était le cas.
Alors c'était le cas, mais c'est aussi pas mal quand le cinéma arrive à détourner,
à dépasser
un peu
ouais.
Et à rentrer dans la complexité des choses, parce que il y a des blancs qui considéraient que c'était leur bon droit que d'empêcher aux noirs d'accéder à ces revendications.
Aujourd'hui, ça nous paraît quand même un peu difficile à comprendre. Il y avait eu le mouvement des droits civiques et la loi pour les droits civiques. Il y avait bien entendu ce 15e amendement à la Constitution des États-Unis qui faisait que normalement tous les citoyens américains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelles que soient leurs origines, pouvaient voter. Pourquoi n'appliquait-on pas la loi et la Constitution? Ça paraît peu américain, ça, comme attitude.
Alors là, effectivement, cette question, elle est très très vaste et elle plonge au cœur, effectivement, d'une tradition, d'une histoire personnelle, familiale, qui fait qu'il faut jamais omettre quand même la question de génération. Bien sûr, on est aujourd'hui 50 ans après, ça nous semble complètement éloigné de ces temps-là, mais on est finalement 100 ans après la guerre de sécession. On n'est pas tant de temps que ça après la fin de l'esclavage. Et on est dans des familles traditionnellement qui avaient des esclaves, qui considéraient le noir comme un bon noir, comme quelqu'un un peu de secondaire, un citoyen de seconde zone, et qui, voilà, c'est une révolution culturelle. Alors effectivement, il y a eu des résistances extraordinairement fortes. En fait, dans le Sud, on expliquait non, on ne contrevient pas du tout à la Constitution, on l'applique, mais on applique la fameuse doctrine et règle « separate but equal », à savoir égaux mais séparés, une forme d'apartheid finalement, c'est-à-dire qu'on vit côte à côte mais chacun a l'égalité. Alors en réalité c'est pas vrai, il n'y a pas d'égalité, on vit côte à côte et Rosa Parks effectivement c'est un peu le voilà, l'expression la plus forte en plein milieu.
Un peu caricatural presque en fait.
Un peu caricatural de cette femme qui ne peut pas s'asseoir dans les quatre premiers rangs parce qu'il y a trop de monde, elle est fatiguée de sa journée de travail et puis elle décide de s'asseoir tout à coup. Et ça c'est essentiel parce que c'est un départ, c'est la désobéissance civile. C'est ça la prise de conscience aussi de Martin Luther King et c'est là l'héritage de Gandhi. C'est de se dire la non-violence, bien sûr, mais la non-violence ça ne veut pas dire à tout accepter. On a un espace pour nous et l'espace c'est de désobéir. Et à partir du moment où on accepte les conséquences de la désobéissance, y compris en termes de violence, on va pouvoir prendre à
témoin... De violence contre soi.
De violence contre soi, ce qui est donc une forme de courage extraordinaire, extraordinaire qui non, aujourd'hui...
Je précise bien, parce que c'est pas la violence dans les deux camps, là. C'est, on accepte la violence contre soi seulement. Hein.
Bien sûr, on voit très bien dans le film des personnes âgées, des très jeunes, des jeunes adolescents qui vont et qui décident d'accepter de prendre des coups pour la cause. Pas pour eux souvent, mais pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est un moment quand même assez extraordinaire. Alors je sais, vous m'avez tout à l'heure dit que sur Twitter, il y a des gens qui voulaient mettre en avant le caractère un peu négatif de Martin Luther King.
On va y venir plutôt dans la deuxième partie. On va parler de Pastor King lui-même, en fait.
Oui, mais on a aussi le droit de reconnaître des héros quand on les a en face de nous. C'est pas si fréquent dans l'histoire de l'humanité. Et je crois que Martin Luther King en était un.
Bien sûr. Alors on va venir justement sur le héros King, si je puis dire, tout à l'heure. Avant ça, terminons l'affaire de Selma même. Une première marche qui donc est un désastre. Une deuxième tentative nettement plus médiatisée déjà. C'est-à-dire que là, on essaie de, en quelque sorte d'instrumentaliser les choses. La bonne marche, ce sera la troisième en fait.
Oui, la deuxième, enfin Martin Luther King est là. Et il décide de ne pas affronter la police. C'est-à-dire qu'il ne le sent pas. Alors, beaucoup lui reprochaient le manque de courage. Est-ce qu'il n'était pas là la première? Est-ce qu'il a eu peur de prendre des coups lui-même? Toujours est-il qu'il prie. C'est une image assez impressionnante. Il prie et il décide avec ses troupes de repartir. Et plusieurs jours plus tard, alors que la marche est à nouveau interdite, il passe devant la justice. La justice autorise la marche, ce qui est extrêmement important. Ce n'est plus vraiment de la désobéissance à ce moment-là. La désobéissance, elle passe en fait du côté de l'Alabama, du côté du gouverneur,
tout.
Voilà, ça change tout, parce qu'il y a la légitimité morale et la légitimité de la justice.
Et la légitimité même de l'exécutif, puisque il ne faut pas négliger dans cette affaire, Dieu sait qu'on dit toujours beaucoup de mal du président Johnson et il y a de bonnes raisons, mais enfin là, sur cette affaire, il a quand même soutenu clairement la démarche du Pastor King.
Du bout des lèvres, il a l'impression qu'il a tout fait en votant et en faisant voter, pardon, en 1964, la grande loi sur les droits civiques qui permet en fait à tout citoyen américain d'aller saisir le département de la justice en cas de ségrégation. Alors, c'est extrêmement important. Et il considère que c'est fini. Parce que Johnson est déjà consumé politiquement, commence à l'être par la guerre du Vietnam, commence à l'être aussi par la guerre contre la pauvreté qu'il veut mener. Et il considère que le droit de vote des Noirs, c'est secondaire.
Ça finit par faire beaucoup.
Voilà,
oui.
Ça fera beaucoup. Qu'il y croit pas, il pense que c'est trop tôt, etc. Et donc, c'est un peu Martin Luther King qui va lui forcer la main. Alors, effectivement, ensuite, Johnson, voyant l'immensité de l'expression populaire autour de Martin Luther King, va se ranger derrière cette cause, un peu comme Kennedy. Puisque Kennedy, c'est aussi, après Washington, après I Have a Dream, après ces centaines de milliers de personnes sur National Mall à Washington, que tout à coup, il reçoit tout le monde en urgence et il se dit, il se passe quelque chose et il faut agir. Donc, il va un peu forcer la main, quand même, tout de même, de Johnson.
Les présidents courent un peu après l'opinion dans cette affaire.
Oui, c'est un peu ça. Et surtout, Johnson va se rendre compte qu'il ne peut plus reculer et que désormais, il faut agir.
Il va signer le fameux Voting Rights Act.
Voilà.
Ça, c'est à l'été 65.
À l'été 65, mais il va faire son grand discours, peut-être l'un des plus grands discours de la vie politique américaine, en tout cas selon moi. C'est après la troisième marche, il vient à la télévision et il explique le bien fondé de cette nouvelle loi.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
De We Shall Overcome, un hymne chanté lors des marches du mouvement des droits civiques aux États-Unis, interprété par les manifestants de Selma.
Presque un côté gospel dans ces chants mobilisateurs.
Et rechanté il y a quelques jours lors de la commémoration avec la première famille, puisque Barack Obama est venu.
Ce qui, évidemment, lorsqu'on sait que le président est noir, prend une dimension toute particulière.
Oui, et d'autant plus qu'à l'époque, Martin Luther King évoquait peut-être la perspective, dans 40 ans, disait-il, d'avoir un président noir à la Maison-Blanche.
Alors, justement, Thomas Negaroff, vous avez avez commencé, avant même que je ne vous pose la question, à défendre la mémoire de Martin Luther King. Alors, je précise que les auditeurs qui émettent des réserves par Twitter, là notamment, ne sont pas très sévères, mais ils disent « Attention, dites-nous bien qui était le bonhomme et dites qu'il n'avait pas que de bons côtés. » Mais c'est vrai qu'il faut souligner les petits aspects, mais ne surtout pas oublier les grands. Et vous avez raison d'insister là-dessus.
Oui, alors effectivement, il y a des aspects plus contestables de sa personnalité, pas de son action politique. Je crois que là, il y a peu de...
Côté tyran domestique un peu.
Oui, tyran domestique, une très grande infidélité, qui aimait beaucoup les femmes. Et d'ailleurs, ça a failli lui coûter très cher, puisque c'était un des leviers utilisés par Hoover, que vous avez évoqué, le FBI, pour nuire. Il y a même des choses terribles. Il reçoit une lettre à la maison avec des enregistrements de ses parties fines avec des femmes. Et on lui dit, en gros, dans la lettre, il est écrit, mais noir sur blanc, une lettre qu'on peut découvrir sur Internet, qui a été scannée et retrouvable, dans laquelle, en fait, il est écrit que le pasteur King, vous feriez peut-être mieux d'en tirer toutes les conséquences si vous n'avez pas envie d'un scandale qui vous éclabousserait ainsi que votre famille. Et ça veut dire quoi? C'est poussé au suicide de King. Parce que Hoover avait nourrissé une haine absolue contre lui, qui a plusieurs natures, d'abord parce qu'il trouvait que c'est un agitateur. Hein, Hoover était quand même le gardien de
l'ordre,
le gardien de l'ordre, voilà. Et puis surtout, ce qui lui reprochait, c'était que on le sait pas beaucoup, mais que King était aussi un grand lecteur de Marx. Et il le qualifiait de communiste. Et alors là, à l'époque, hein, on n'est pas aujourd'hui. À l'époque, déjà aujourd'hui c'est compliqué, mais alors à l'époque, hein, dans la période de guerre froide, dans les années 60, être traité de communiste...
Oui, en
pleine guerre du Vietnam, c'était presque un ennemi de l'intérieur. Et c'était un peu l'angle d'attaque contre Martin Luther King. Et d'ailleurs, vous savez... Quand il est mort, Martin Luther King, on en parlera peut-être à un moment donné, à Memphis en 68, il était là pour aller soutenir des Noirs qui étaient en grève contre leurs conditions de travail. Donc il avait, après le grand combat sur les droits de vote, il s'était déplacé vers sa gauche, vers effectivement un combat davantage social sur la question de l'égalité désormais sociale entre les Noirs et les Blancs.
C'est peut-être ce que voyait venir Hoover. Voilà. Il se disait qu'après le combat pour Absolument. Les droits, viendrait le combat pour des droits plus sociaux. Et que là, c'était le début des problèmes pour l'équilibre politique américain. Il était peut-être aussi raciste, Hoover, il faut le dire.
Voilà, il y a aussi certainement un vieux fond, effectivement, de défense de ses amis du Sud. Mais je crois vraiment, c'est la crainte de la révolution. La crainte de la révolution, parce qu'il a vu la capacité de Martin Luther King à fédérer du monde. Quand vous avez 200 000 personnes qui vous suivent, c'est 200 000 personnes qui peuvent éventuellement commencer à basculer de la non-violence à la violence. Et ça, c'est l'inquiétude de la part de Hoover, du FBI, mais aussi de l'administration.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'influence de Gandhi. Chez le pasteur King, c'est fondamental, ça, cette idée. Hein.
Oui, c'est extraordinairement fort. Martin Luther King avait plusieurs fois dit qu'il considérait que Gandhi était le plus grand chrétien. Ce qui est marrant, parce que Gandhi n'était pas chrétien, mais des valeurs d'amour et surtout de modalités d'action. Parce que il faut jamais oublier une chose, c'est 1930. Et 1930, Gandhi organise la marche du sel. Et la marche du sel, c'est quoi? C'est de partir, alors là, c'est pas 70 km, c'est 386 km, pour aller, prélever lui-même un peu de sel. Prélever lui-même un peu de sel, parce que le sel était considéré, ça nous ramène aussi à notre histoire française,
à la gabelle
effectivement, et à la présence britannique. Et il part seul, et à la fin, c'est des dizaines de milliers d'Indiens qui sont avec lui. Et ça, Martin Luther King, environ vers 1950, analyse beaucoup Gandhi, lit Gandhi, et il se convainc que la solution, elle est la même, à savoir qu'il va falloir faire preuve de patience, de courage, et d'intelligence aussi pour savoir saisir l'opinion publique au moment où il faut la saisir et à l'endroit où il faut la saisir, à savoir à Selma.
On est dans les deux cas, aussi bien dans l'Inde de Gandhi que dans l'Amérique ségrégationniste de King, on est en présence de combats exaltants. C'est quand même ce qu'il y a de fabuleux, c'est ce qu'on ressent dans ce film et d'une façon plus générale dans tout ce qui raconte ce genre de grands combats, cette lutte pour des droits, c'est que on est pris par quelque chose de beaucoup plus grand. Et il y a chez le pasteur King la dimension d'un orateur. Après tout, c'est un prêcheur. Avant tout, c'est un homme de... On pourrait presque dire de communication.
Oui, absolument. Et c'est un baptiste. Et il faut savoir que les baptistes, ont un esprit extrêmement missionnaire. Et une approche très personnelle de la Bible. Donc c'est une lecture très approfondie des textes et aussi un esprit missionnaire qu'on retrouve chez lui. Voilà, il y a l'idée effectivement de saisir ce souffle de la foule et de l'accompagner et lui donner une conséquence politique immédiate. C'est un pragmatique, en fait. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que c'est un idéologue. En réalité, c'est un grand pragmatique qui a très, très bien compris les ficelles de la société de consommation, qui a compris les failles de son État et qui sait exactement où il faut jouer pour faire mal et gagner le combat. Et il l'a remporté, ce combat.
Oui, au moins autant que de Gandhi, on pourrait le dire adepte de Sun Tzu, il savait utiliser la force de l'adversaire et il le faisait admirablement. Ça.
Oui, absolument. D'ailleurs, il était lui-même versé de culture orientale, il connaissait très très bien tout cela. Et il a des successeurs, quelqu'un comme Mandela par exemple. Moi je le tiens comme un successeur du discours de Martin Luther King, notamment, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, dans l'idée que c'est pas... On ne veut pas faire émerger une nation noire comme Malcolm X, en tout cas la première génération Malcolm X, Nation of Islam, etc., où on considère que les Blancs sont des cochons et qu'il faut les tuer à cause de l'esclavage, etc. Pas du tout. Quand on réécoute I Have a Dream, ce grand discours, dans I Have a Dream, il dit « Je rêve, j'ai fait un rêve où nous étions ensemble, nous, Blancs et Noirs. » Et à ce titre, Barack Obama, en 2004, lorsqu'il avait prononcé ce grand discours à la Convention démocrate, alors qu'il n'était pas très connu, il avait employé à peu près les mêmes mots pour dire « Il n'y a pas une Amérique blanche, il n'y a pas une Amérique noire, il n'y a pas une Amérique latino, il y a les États-Unis d'Amérique. »
Ça pourrait expliquer la raison pour laquelle, aujourd'hui, Martin Luther King n'est pas tellement... défendu par un certain nombre d'associations noires, on va dire un peu extrémistes américaines, notamment, pas seulement américaines d'ailleurs. Il est mis un peu de côté parce qu'on considère qu'il n'est pas assez agressif d'une certaine manière et que son message n'était pas assez revendicatif.
Oui, qu'il est le gentil noir dans l'histoire, qui rassure le blanc, un peu comme un Barack Obama finalement. Mais l'histoire montre que ces gens-là ont fait bien plus avancer la cause noire que ne le feront jamais avancer les apôtres de la violence. L'histoire le dit, l'histoire le montre. Alors effectivement, on peut considérer qu'il a été peut-être un peu tendre, qu'il a beaucoup trop parlé aux blancs, qu'il était peut-être même lui-même un peu blanc à l'intérieur. On a dit ça à l'époque de lui. Mais le fait est que la cause a nettement plus avancé avec des gens comme lui qu'avec des apôtres de la violence.
Elle a avancé tant qu'on l'a laissé faire, parce qu'il ne faut quand même pas oublier l'assassinat de Martin Luther King, évidemment.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, l'assassinat s'inscrit dans une grande période de violence politique qui commence finalement avec Kennedy, on en avait parlé ici ensemble, qui se poursuivra avec lui, avec Malcolm X entre les deux, et avec Bobby Kennedy par la suite. Une grande violence politique, cette violence qui traduit aussi la radicalisation d'une partie des Noirs américains qui ne supportent pas ce discours pacifique de Martin Luther King.
Quelques mois avant de mourir, Martin Luther King avait adressé un message aux Français. Alors je l'ai promis tout à l'heure à nos auditeurs, on va entendre ce message. Il faut tendre l'oreille, je vous le dis franchement, parce que d'abord la qualité du document n'est pas très bonne et en plus on ne peut pas dire que le pasteur King s'exprime très bien en français. Il dit, ça vous facilitera la tâche, il dit « Je suis Martin Luther King, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous en français aujourd'hui ici. Il y a des hommes et des femmes sans distinction de nationalité, de religion et de race. Nous espérons qu'une autre manifestation ici aux Nations Unies et à San Francisco seront entendues par les Américains et les Français et aussi par ceux dans le monde entier qui veulent la paix.
Je suis Martin Luther King. Je suis heureux de pouvoir m'adresser en français aux Européens qui. Il y a ici des hommes et des femmes, des dizaines de milliards, peut-être des centaines.
Il ne faut pas se fier évidemment à ce document parce que quand il parle en anglais, en américain, le pasteur King est beaucoup, beaucoup plus pugnace. Il faut quand même dire ça, Thomas Negaroff.
Oui, absolument.
Là, on sent qu'il annonce parce qu'il essaie de déchiffrer.
Oui, alors c'est un immense orateur et là, ça lui rend pas hommage. Vous auriez quand même pu trouver un extrait un peu plus.
Mais c'était la seule fois qu'il parlait français.
Oui, d'accord, mais très mal. Donc vous me prouvez qu'il parle mal français, que c'était pas un bon orateur.
C'est vrai, oui.
Il parlait très bien anglais et c'était un très bon orateur.
Oui, oui, il avait cette fougue et cette capacité d'investissement absolument extraordinaire.
Ah oui, ça c'est une qualité, c'est un don, c'est un vrai don.
Et on cite toujours le discours « I had a dream ». Il y a tout un recueil des discours de Martin Luther King qui sont presque des sermons d'une certaine manière.
Ce sont des sermons. D'ailleurs, « I have a dream », il faut savoir une chose.
Oui, c'est vrai.
C'est quand il est face à cette foule immense. Je ne sais pas si vous connaissez Washington, Franck, mais il est devant le Lincoln Memorial, l'immense sculpture de Lincoln. Et il est avec ses militants, avec ses amis les plus proches. Et il commence un discours qui est un peu politique. Et Mahalia Jackson, qui est une cantatrice aussi, une chanteuse, qu'on voit d'ailleurs dans le film, dans Selma, il l'appelle à la nuit, il lui demande de chanter, elle chante pour lui. Et elle sent qu'il n'est pas le bon Martin Luther King, il n'est pas aussi bon que d'habitude. Et elle lui susurre quelque chose, elle lui dit « Parle-leur du rêve, Martin ». Et c'est à ce moment-là que Martin Luther King improvise quasiment et retombe en fait sur les pieds sur ses pieds, les choses qu'il connaît le mieux, et il est en train de lancer un immense sermon qu'on le connaît encore aujourd'hui et qu'on en apprend dans les écoles américaines.
Le film Selma d'Ava Duvernay est en salle à partir de demain. Également sur France 5, jeudi soir à 21h35, vous aurez la saison 2 de Duel. Ce sera le duel entre Martin Luther King et Malcolm X, Deux rêves noirs. Un très beau documentaire. Et puis, je signale, Thomas Negaroff, le titre de votre dernier ouvrage, Bill et Hillary Clinton, Le mariage de l'amour et du pouvoir. Peut-être un livre qu'il faudra augmenter d'un chapitre à partir de l'année prochaine.
Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Franck sur l'origine de l'expression « mettre sa main au feu ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Franck, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait que vous reveniez sur l'origine de l'expression « mettre sa main au feu ».
Alors, je suis allé voir le Alain Rey, tout simplement, et qui nous apprend que l'expression, en tant qu'expression figurée, « mettre sa main au feu », date de 1549. Voilà une réponse bien, bien claire et bien nette. Maintenant, d'où ça vient, cette idée? Ça vient de l'ancienne ordalie médiévale. Vous savez, ordalie, ça vient soi-même du vieil anglais « ordal », qui signifie « le jugement ». Et là, c'était le jugement divin. Il s'agissait, l'ordalie, c'était tout simplement de laisser Dieu décider de la partie qu'il allait favoriser, en quelque sorte. Alors, vous aviez ce qu'on appelait l'ordalie bilatérale, où on opposait l'accusé au plaignant. Si l'accusé sortait vainqueur, il était innocenté. Et c'est si le plaignant gagnait, l'accusé était condamné. Les deux opposants se tiennent debout, les bras à horizontale, et le premier qui baisse les bras a perdu. Il valait mieux quand même s'entraîner un peu, vous imaginez. Bon. Il y avait aussi dans l'ordalie bilatérale, tout simplement, le duel à mort, ce qu'on appelait le duel de justice. Bien. Et puis, l'ordalie unilatérale, alors là, c'est encore bien plus incroyable, vous aviez l'ordalie par l'eau, donc là, l'accusé est ligoté et plongé dans l'eau, alors soit un bassin, soit un fleuve, etc. S'il ne coule pas, ça relève du maléfique et il est déclaré coupable. Donc, soit il se noie, il coule et il avait raison, soit il ne se noie pas et de toute façon, il est coupable et on va le tuer. Bon, c'est pas mal. Et puis, par le feu, l'accusé doit saisir un morceau de fer rougi dans les flammes, vous imaginez. Sa main est ensuite scellée dans un sac de cuir et 3 jours plus tard, on découvre la main. Si elle a bien cicatrisé, il est déclaré innocent. Eh bien, vous me voyez venir. C'est de là, bien sûr, qu'a été tirée l'expression « mettre sa main au feu ». C'est-à-dire qu'on est tellement sûr de soi et de son bon droit qu'on est tout prêt à subir l'ordalie unilatérale et à mettre sa main dans les braises. C'est quand même assez terrible, tout ça. Il faut vous dire que le 4e conseil écuménique de Latran en 1215 a condamné l'ordalie, qui a été considéré comme un moyen complètement désuet de pratiquer la justice. Et en France, le roi Louis IX, c'est-à-dire notre Saint-Louis national, l'a définitivement interdite pour la justice civile. Attention pour la justice civile, parce que pour la justice religieuse, c'était quand même un petit peu plus compliqué. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, aujourd'hui nous allons vous parler du handicap physique. Vous savez que c'est la semaine du handicap physique à l'occasion des 10 ans de la loi pour l'égalité des personnes handicapées, avec 2 témoignages exceptionnels, celui de Charlotte de Villemorin qui publie un livre extraordinaire sur son quotidien de personnes handicapées, et celui de Michael Jérémiaz, devenu champion de tennis handisport après un grave accident à 18 ans.
Bravo, merci beaucoup Marion, nous nous retrouvons demain Céline.
Avec grand plaisir Franck, à demain.